te prie de nous parler ce matin. Viens nous interpeller, nous, ce matin, tous ceux d'entre nous ici à qui tu t'es révélé, à qui tu t'es fait connaître et que tu appelles. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. On va écouter la parole de Dieu.
Alors, le passage de ce matin se trouve dans Exode au chapitre 3, le verset 1 à 8. Je vais lire par la suite Exode au chapitre 4, le verset 1 à 9. Et ça sera dans la version second 21. Alors, Exode, chapitre 3, verset 1. Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père, Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Moïse dit, « Je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. » L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, « Moïse, Moïse !» Il répondit, « Mais voici !» Dieu dit, « N'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. » Il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il avait peur de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. » Exode chapitre 4, verset 1. Moïse répondit, « Ils ne croiront pas et ils ne m'écouteront pas. Au contraire, ils diront, « L'Éternel ne t'est pas apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Un bâton. » L'Éternel dit, « Jette-le par terre. » Il le jeta par terre et le bâton se changea en serpent. Moïse prit la fuite devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Tends la main et prends-le par la queue. » Il tendit la main et l'attrapa. Le serpent redevint alors un bâton dans sa main. L'Éternel dit, « Voilà ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur ancêtre, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » L'Éternel lui dit encore, « Mets ta main sur ta poitrine. » Il mit sa main sur sa poitrine, puis la retira. Et voici que sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, « Remets ta main sur ta poitrine. » Il remit sa main sur sa poitrine, puis l'en retira. Et voici qu'elle était redevenue normale. L'Éternel dit, « S'ils ne te croient pas et n'écoutent pas le message du premier signe, ils croiront à celui du dernier signe. S'ils ne croient toujours pas, même avec ces deux signes, et ne t'écoutent pas, tu prendras de l'eau du fleuve. Tu la verseras sur la terre, et l'eau que tu auras prise dans le fleuve se changera en sang sur la terre. »
Merci Stéphane. Juste un petit rappel parce que c'est intéressant, on voit l'évolution de Moïse. Lorsque Moïse était encore dans la maison de Pharaon, il connaissait ses origines, donc il avait été élevé comme un Égyptien, mais il connaissait ses origines. À un certain moment donné, il veut se rapprocher de son peuple, commence à aller les côtoyer, il voit combien ils sont maltraités, il prend à cœur d'intervenir. Moïse se trouve une cause. Peut-être qu'il s'est dit, c'est pas pour rien que j'habite la maison de Pharaon, je vais pouvoir intervenir en leur faveur. On n'a pas vraiment les détails, mais c'est clair qu'il prend à cœur leurs conditions parce qu'il intervient, puis finalement, ça finit qu'il va tuer quelqu'un. Puis Moïse doit se sauver. Il s'était trouvé une cause, il s'était trouvé une vocation. Mais Moïse ne connaissait pas vraiment Dieu encore. Il a fallu que Dieu le conduise à l'écart, qu'il se révèle à lui pour qu'il le connaisse et que Dieu appelle Moïse, que Dieu lui donne une mission pour qu'après ça, il puisse aller dans sa mission. Et ce matin, on va voir que là, il a commencé à avoir des questions. Je ne sais pas toi, si tu as une cause sur ton cœur, si tu as comme t'as quelque chose que tu as à cœur avec ta vie ou avec ta carrière, peut-être que tu es en train de faire des choix de carrière, puis tu as une cause à cœur, tu donnes une direction à ta vie. C'est très, très, très à la mode aujourd'hui. C'est vrai? Cherche ta passion, trouve ta voie. Moïse a dû premièrement connaître Dieu pour que ce ne soit pas sa cause, mais la mission que Dieu lui a donnée. Moïse a dû premièrement connaître Dieu pour avoir une vraie mission, une vraie cause. Puis après ça, Dieu a pu l'envoyer dans sa mission. Et Dieu peut le faire avec chacun d'entre nous. Dieu peut le faire avec chacun d'entre nous. Dans ce passage-là, à travers le débat entre Moïse et Dieu, on voit que Dieu peut se servir de gens faibles, des gens qui n'ont pas confiance en eux, qui ne pensent pas que c'est eux la bonne personne pour faire une intervention. Et Dieu peut se servir de nous. On lit dans la lettre aux Éphésiens, dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens 3:20, « Or, celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Ce matin, on va voir ensemble que c'est parce que Dieu est Dieu qu'il peut t'envoyer pour annoncer son plan de libération. Il peut te donner une mission qui dépasse tous les rêves, toutes les passions que tu pourrais avoir. C'est parce que Dieu est Dieu qu'il peut t'envoyer pour annoncer son plan de libération. Celui qui nous a appelés. Commençons par l'appel, commençons par la personne de Dieu avant d'aller vraiment dans les excuses de Moïse, d'accord? Qui est Dieu? Moïse ne connaît pas vraiment Dieu. Il a été élevé par des Égyptiens, il connaît certainement les dieux des Égyptiens. Israël n'était pas constitué comme une nation avec un service où ils étaient instruits, enseignés constamment dans les saintes écritures. Moïse va écrire les 5 premiers livres de la Bible. Donc Moïse ne connaît pas véritablement Dieu. Et Dieu va se manifester à lui d'une manière extraordinaire, soit dit en passant sur le mont Horeb, qui est aussi le mont Sinaï. C'est intéressant. Donc Dieu va se manifester là, dans un buisson, de manière surnaturelle. Je viens à ça dans un instant. Mais plus tard, Moïse va conduire Israël au mont Sinaï, où Dieu va se faire connaître encore. D'accord? Et Dieu va le faire de manière surnaturelle, à travers un buisson. Et puis lorsqu'on lit attentivement le passage, au début, il est question de l'ange de l'Éternel, mais quand on continue à lire, tu réalises que l'ange de l'Éternel, c'est en fait Dieu lui-même. Il y a une espèce d'apparition de Dieu. Si vous regardez avec moi le verset 2, Exode 3:2, « L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était en feu, et le buisson ne se consumait point. » Au verset 4, « L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir Dieu l'appela du milieu du buisson. » Il dit « Moïse, Moïse ». Et il répondit « Me voici ». On a ici ce qu'on appelle en théologie une théophanie. J'en ai déjà parlé à quelques reprises. Une théophanie, c'est une apparition de Dieu. Les pères de l'Église, ceux qu'on appelle communément les pères de l'Église, c'est-à-dire les premiers enseignants qui ont suivi les apôtres, peut-être que les noms vous diront absolument rien, ils ont toujours des noms très originaux. Irénée de Lyon, Justin Martyr, Clément de Rome, Augustin. Mais particulièrement les pères de l'Église voyaient dans ces théophanies-là dans l'Ancien Testament, lorsqu'il y a une apparition visible de Dieu, souvent il va être présenté comme l'ange de l'Éternel, mais au fur et à mesure qu'on avance dans le texte, tu réalises que c'est pas un ange de l'Éternel, c'est l'ange de l'Éternel. Les pères de l'Église reconnaissaient généralement dans ça une apparition du Christ avant son incarnation. Encore juste un petit peu de théologie vite vite ce matin. Donc Jésus... Beaucoup plus tard, le Christ existe avant qu'il soit Jésus. Tant qu'il ne devient pas un homme, il ne s'appelle pas Jésus. C'est le Fils de Dieu au sein de la Trinité, le Logos, la parole de Dieu par qui Dieu a créé toutes choses. On est dans la Sainte Trinité. Et it makes sense. Ça se tient de dire que la partie visible de Dieu, lorsque Dieu devient visible, ça va être le Fils qui s'incarne. Ce ne sera pas le Saint-Esprit, ce ne sera pas le Père, ça va être le Fils. Donc c'est probable qu'on a ici une apparition du Christ avant son incarnation, avant qu'il devienne véritablement homme, d'accord? C'est probable. Ça fera partie des cours avancés lorsqu'on sera au ciel, D'accord? On aura des petites extensions là-dessus pour avoir un peu plus d'éclaircissement. Mais c'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant parce que vous allez voir, Jésus reprend des paroles de Dieu une fois qu'il est incarné plus tard. Okay? Puis il fait allusion à des passages comme ceux-là qui sont vraiment importants. Le Dieu qui appelle, Exode 3, 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Si j'avais eu plus de temps ce matin, j'aurais pu vous sortir un paquet d'exemples de situations où Dieu appelle. Quand on parle du Dieu de la Bible, une de ses caractéristiques, c'est qu'il est le Dieu qui appelle. C'est le Dieu qui intervient auprès des hommes, qui s'adresse aux hommes, quand je dis les hommes avec un grand H, s'adresse aux êtres humains et les appelle. Il le fait avec ses prophètes, il le fait avec Israël, il le fait avec chacun d'entre nous. Si je peux dire aujourd'hui que je suis chrétien, c'est parce que Dieu m'a appelé. Et ça, c'est important. Si vous voulez connaître le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui appelle. Parce que c'est le Dieu qui doit se révéler. Généralement, lorsqu'on essaie de concevoir Dieu sans les Saintes Écritures, sans la Bible, on va penser à Dieu, on va regarder la nature. Tout à l'heure, dans la prière, je disais, on peut connaître un peu de choses de toi à travers la nature, mais il y a des gens qui ont l'impression qu'ils connaissent tout de Dieu juste avec la nature. Ils sont là sur un lac, par un bel été, dans une partie de pêche, puis ils assistent à un coucher de soleil, puis ils sentent qu'ils sont en communion avec Dieu, puis dans un certain sens, oui, dans un certain sens, oui, parce qu'on peut connaître la majesté de Dieu à travers sa création. Mais ce que les Saintes Écritures nous disent, c'est que ce qu'on peut connaître de Dieu est très limité juste à travers cette révélation-là générale de la nature. Ça nous prend la révélation spéciale des Saintes Écritures où Dieu vient se révéler. Et donc, Dieu fait le pas vers Moïse, il va se faire connaître à Moïse et à travers ça, il va l'appeler. Soyez bien attentifs à ce passage-là dans 1 Pierre 2, 9 et 10. Parce que là, je vais parler de votre appel à vous, de mon appel à moi, si je suis chrétien. Vous, au contraire, alors c'est Pierre qui parle, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, c'est-à-dire des prêtres royaux. Je n'ai pas le temps de tout décortiquer le passage ce matin. Une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Vous avez quasiment l'histoire d'Israël là-dedans. Mais ce n'est pas d'Israël dont on parle ici. Ou de l'Israël de Dieu. On parle de l'Église. On parle de l'Église ici. Et il dit au milieu du verset, « Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Si tu es chrétien, si tu dis, puis dans ton cœur, tu sais que tu connais Jésus-Christ, c'est parce que Dieu t'a appelé, comme il a appelé Moïse. C'est parce que Dieu s'est révélé à toi, alors que tu ne le connaissais pas, tu étais dans les ténèbres, un, de ton péché, mais de ton ignorance sur la personne de Dieu. Et Dieu s'est révélé à toi, il t'a appelé, il t'a fait sortir de cette ignorance-là du péché pour te conduire dans sa lumière, avec une mission, annoncer ses vertus, parler de celui qui t'a racheté. Le Dieu de la Bible est le Dieu qui appelle, et il appelle Moïse ici, mais Dieu appelle, Dieu est comme ça, Dieu nous appelle. Et son nom est « Je suis ». Le nom de Dieu, c'est « Je suis ». C'est comme ça qu'il se révèle à Moïse. Regardez le verset 13. Exode 3, 13. « Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? » J'ai dit, « Moïse ne connaît pas Dieu. » Il connaît des choses sur Dieu, il a entendu parler du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais il ne le connaît pas vraiment. Israël vit en Égypte depuis très longtemps. Ils ont adopté un certain nombre de croyances des Égyptiens, ils ont adopté des divinités égyptiennes. On le voit dans la suite du livre d'Exode. Je l'ai dit la semaine dernière, tu sors Israël d'Égypte, mais tu ne sors pas l'Égypte d'Israël facilement. Et donc, Moïse a besoin de savoir, « Oui, mais donne-moi au moins un nom, s'il te plaît. Il faut que je parle de toi. » Et le nom que Dieu lui donne, c'est Yahweh. On ne sait même pas exactement comment prononcer ce nom-là, d'accord? Mais ce qu'il signifie, en somme, c'est « Je suis celui qui est ». Quand ils vont te demander « Qui est ce Dieu qui t'envoie pour nous faire sortir d'ici? » Tu répondras « C'est celui qui est. » C'est celui qui est de tout temps. Ce n'est pas un Dieu duquel vous trouverez l'origine. Ce n'est pas un Dieu que vos pères ont inventé. Ce n'est pas un des dieux que vous vous êtes forgé. C'est celui qui est. Ta vie passe. Celle de tes ancêtres a passé. Celle de tes enfants vont passer. Les jours passent, mais moi, je ne passe pas. Je suis. Je suis. Tout simplement. Et donc, Dieu est le Dieu de ceux qui ont vécu il y a 2000 ans. De ceux qui vivront dans 1000 ans si le Seigneur Jésus ne revient pas avant. Parce que pour Dieu, ils sont tous vivants. Dieu est à l'extérieur du temps. Dieu ne vit pas dans l'espace-temps. Hier, dans ma vie, ma naissance, 46 ans cette année, ces 46 années-là que moi je vois passer à toute allure, Dieu les voit passer beaucoup plus vite. Ils existent à l'extérieur du temps. Ma naissance, ma vie et ma mort se passent dans un instant devant Dieu. Parce qu'il est. Moi, j'étais, je suis et je ne serai plus. Physiquement, à moins que Jésus revienne vite, physiquement, je ne serai plus. On perd les gens qu'on aime, on les enterre. Dieu n'était pas, Dieu est. Et donc, Dieu est le Dieu qui est, tout simplement. Jésus fait le même argument pour dire que Dieu est le Dieu du passé, du présent et du futur. Dans Marc, Jésus dit, « Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui dit à propos du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, et le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. » Vous êtes grandement dans l'erreur. Jésus enseignait sur la résurrection. Il dit, Abraham est vivant, puis il va ressusciter d'entre les morts. Parce que Dieu est encore le Dieu d'Abraham, même s'il est mort. Dieu est encore le Dieu d'Isaac, même s'il est mort. Parce que Dieu est à l'extérieur du temps. On pourrait passer des semaines simplement à discuter de ça. Pour aller chercher les bénédictions qu'il y a pour nos cœurs, de savoir que le Dieu qui s'est révélé à nous, c'est celui qui est. Mes angoisses pour demain, quand je vais apprendre dans quelques années ou dans quelques jours que j'ai une maladie qui va peut-être m'emporter. Dieu sait tout ça maintenant. Avant ma naissance, il connaît le jour de ma mort, il connaît les causes, il connaît chacune de mes angoisses. J'ai perdu mon emploi. Quand est-ce que je vais trouver du travail? Qu'est-ce qui va se passer? Je me sens seul. Quand est-ce que ça va finir? J'ai un conflit avec telle personne. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu est à l'extérieur de tout ça. Puis là, puis il dit, relax, bonhomme. Je suis. Je suis. Je sais tout ça. Je connais toute l'histoire. C'est entre mes mains. Parce que je me suis fait connaître à toi, je t'ai appelé. Je t'ai appelé. T'es entre mes mains. Dieu est le Dieu qui envoie. Dieu est le Dieu qui appelle. Il est « Je suis » celui qui est. Et il est le Dieu qui envoie. C'est un des grands privilèges qu'on a comme chrétiens. Lorsque Dieu s'est fait connaître à nous, toujours, quand Dieu se révèle, il nous embarque dans sa mission. Tout le temps. Regardez ce qu'il dit à Moïse au verset 7 à 10, Exode 3, 7 à 10. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. » Et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Intéressant, hein? Moïse, lorsqu'il était en Égypte, dans la maison de Pharaon, il avait trouvé sa voie, il avait trouvé sa cause. C'est ce que je comprends du texte. Dieu l'avait placé dans la maison de Pharaon. situation d'influence, de connaissance, de pouvoir. Mais lui, il sentait son attachement à sa vraie famille, les Hébreux. Et il s'était donné une cause, il avait trouvé une cause, puis il a voulu intervenir, il a voulu sauver, il a voulu secourir, il a pris les choses en main. Littéralement. Il a tué. Mais Dieu ne l'avait pas appelé. Dieu était en train de le préparer. Dieu ne l'avait pas appelé à ce moment-là. Il a fallu que Dieu le conduise au loin, le mette à l'écart, qu'il apprenne à devenir berger, qu'il trouve un peu d'humilité, qu'il quitte ses vêtements de fils du Pharaon et qu'il devienne humble, comme un berger, comme un berger. Et là, Dieu va l'appeler à cet endroit-là. Il va se révéler à lui, il va se faire connaître à lui. Puis ensuite de ça, Dieu va l'envoyer. En somme, Dieu dit, j'ai un plan, Moïse. J'ai un plan, puis mon plan, c'est toi. Et Moïse a appris avec les années. Il n'a pas le même courage, la même folie qu'il avait lorsqu'il est allé et il a tué un Égyptien. Et Moïse n'est pas convaincu. Il n'est pas convaincu du tout de l'argument de Dieu ici. Est-ce que Dieu t'a appelé? Est-ce que tu le connais par son nom? Est-ce que dans ton cœur, tu dis, je connais Dieu? Pas le Dieu de la nature. Quand tu jases avec des collègues de travail, quand tu jases avec les gens autour de toi, puis à un moment donné, ça vient sur le sujet, ils te parlent de leur croyance, de leur foi, ils te parlent de leur Dieu, ils te parlent de leur compréhension de Dieu. Est-ce que tu as ce sentiment de dire, si seulement ils savaient, si seulement je pouvais leur communiquer tout ce que je sais sur Dieu? Là, tu as peut-être la crainte d'ouvrir la bouche parce que ça a l'air tellement prétentieux. Est-ce que Dieu t'a appelé? Est-ce que tu le connais par son nom? Le nom de mon Dieu, c'est Jésus. C'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et si tu le connais, il t'a appelé. Il t'a appelé. Où est-ce qu'il t'a appelé? Au travail? C'est ton champ de mission? On a fait une série sur le travail, on a parlé comment notre lumière peut briller au travail, comment on doit voir le travail, puis chacune de nos actions posées nous donne la possibilité d'entrer dans cette œuvre-là de travail, mais à travers ça, il va y avoir des relations qui vont être là, il va y avoir des opportunités de parler de Dieu, il va y avoir des dilemmes moraux qui vont apparaître, il va y avoir une rigueur ou non, il va y avoir une éthique de travail. Avec mes collègues avec qui j'étudie au cégep, à l'université, au secondaire, puis on fait des projets, on fait des travaux ensemble, on jase ensemble, on partage nos vies ensemble. Et Dieu t'a peut-être appelé là, dans ce milieu-là. Mais si tu connais Dieu, il y a un appel qui est plus grand encore que celui-là. Dans ce milieu de travail, dans ta famille, là où Dieu t'a appelé. Est-ce que Dieu t'a appelé? Est-ce qu'il s'est fait connaître à toi? Si tu ne connais pas le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, si tu ne connais pas Jésus-Christ, tu ne connais pas Dieu. Peut-être que tu imagines Dieu, peut-être que tu le conçois comme tu le voudrais, mais Dieu s'est fait connaître. Est-ce qu'il s'est fait connaître à toi? Est-ce que tu le connais personnellement? Si tu le connais, il t'envoie pour annoncer l'Évangile. Il t'envoie dans un milieu particulier de vie. C'est le tien. C'est toi qui as placé là. Et tu es envoyé là, dans ta famille, à l'école où tu fais du bénévolat, il t'envoie pour annoncer un message, pour annoncer une bonne nouvelle, pour annoncer les vertus de celui qui t'a fait sortir des ténèbres pour te conduire dans son admirable lumière. Il t'envoie peut-être servir dans un groupe en mission, parce que tu dis, oui, je comprends, c'est ça que je dois faire, mais je veux le vivre avec des gens, on va aller ensemble, on va aller servir la communauté, il va y avoir des relations qui vont se développer à travers ça. Puis des gens, comme je le vis à chaque semaine à Beaufortus, Yannick, quand est-ce qu'on commence à étudier la Bible? J'ai une madame, elle court après moi, elle est en train de se fâcher après moi. Elle dit, Yannick, tu m'as dit qu'on allait étudier la Bible, quand est-ce qu'on commence? Hey, c'est extraordinaire. C'est merveilleux. Dieu vient de se révéler à Moïse d'une manière absolument extraordinaire. Moïse maintenant connaît son appel, il connaît sa mission, il connaît Dieu. Pourtant, il n'est pas convaincu. Je ne sais pas si toi, tu es convaincu ce matin. Si Dieu s'est révélé à toi, tu connais Dieu, tu connais ton appel. Est-ce que tu es convaincu? Moïse n'est pas convaincu. J'ai appelé ça mes excuses, monsieur Dieu. Je pense que tu t'es trompé. C'est parce qu'il y a quelque chose de débile. Il y a quelque chose que tu sais, tu te dis, si j'étais devant un buisson qui ne brûle pas, puis quand je commence à m'approcher, il se met à parler. Puis là, il dit, enlève tes gougounes, Johnny, parce que c'est un lieu saint. Puis là, il commence à faire des signes extraordinaires. Puis je dépose un bâton par terre et il se transforme en serpent. Puis, tu sais, après ça, quand il dit, Moïse, tu vas faire ça, oui, monsieur. C'est sûr! Je veux dire, il était capable de tuer un Égyptien sans être appelé par Dieu. Là, il y a des miracles qui se passent. Pourquoi il ne pourrait pas y aller? C'est une chose de poursuivre ta passion, la voie que tu t'es donnée, puis pour réaliser plus tard que vraiment la gloire pour un être humain, c'est d'embarquer dans le projet de Dieu pour notre vie. Mais de trouver encore la joie, de trouver encore la foi, puis d'embarquer là-dedans. Moïse n'est pas convaincu. Dieu, je suis pas sûr. Peut-être que tu t'es trompé. C'est quand même fou. C'est quoi ses excuses? Il dit, je suis qui, moi? Exode 3, 11 et 12. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon? Après tout, j'ai tué quelqu'un là-bas. Je suis persona non grata. J'ai pas le droit de me pointer là-bas. Ils vont me zigouiller. Et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël, non seulement la maison de Pharaon veut me tuer, mais les Israélites ne me connaissent même pas. Je suis qui pour aller faire ce job-là? Après tout, c'est ça notre question à tout le monde? Je suis qui, moi, pour ouvrir la bouche au travail? Seigneur, si tu regardais ma vie chrétienne, parce que la vie de Moïse n'est pas toute sur la coche, hein? Vous allez voir à la fin, il y a comme un épisode vraiment bizarre où Dieu décide qu'il met à mort. Si vous connaissez le passage, là, c'est comme weird, ça vient d'où cette affaire-là? Et Moïse n'était pas un bon petit juif encore. Il y avait des affaires qui ne marchaient pas. Et au fond, ce n'est pas ça notre question. Seigneur, je suis qui, moi, pour ouvrir la bouche? Je suis qui, moi, pour répondre à l'appel? Je suis qui, moi, pour m'engager? Je suis qui pour consacrer ma vie, Seigneur, à juste être un bon témoin? Je suis qui, moi, pour aller faire de la formation de disciples? Je suis qui, moi, pour m'investir, puis parler, puis donner des arguments pour parler de Dieu? Je suis qui, moi, pour faire ça? Soyez attentifs aux arguments de Moïse. Ce qui est frappant, c'est que dans toutes les excuses de Moïse, il y a énormément de Moïse là-dedans. Vous savez, lorsque Dieu nous appelle, puis qu'on commence à sortir toutes les excuses, bien dans le fond, qu'est-ce qu'il y a? Il y a énormément de moi dans ça. Je me regarde dans le miroir, puis je dis, je suis qui? Moi. Puis la réponse de Dieu, c'est, bien justement, t'es peut-être pas grand-chose, bonhomme. Si on en parlait, justement, je pense que t'es pas hot. La réponse de Dieu, c'est quoi? Il dit au verset 12, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple que vous servirez Dieu sur cette montagne. » Dieu dit, « Regarde, c'est parfait, ça. Moi, tout ce que je veux, c'est des serviteurs qui trouvent qu'ils sont pas hot. Fais juste te tasser du chemin, puis je vais être avec toi. Oublie-toi deux minutes, puis fais le pas de foi. Puis le signe que je vais te donner que je suis avec toi, là, c'est à la fin de toute l'aventure quand vous allez être en train d'adorer au Mont Sinaï. Ah, parce qu'il va falloir que je marche par la foi jusque-là. Oui, parce que chacune des étapes, tu vas avoir l'impression que ça ne marchera pas. Pharaon, c'est comme ça, ne marchera pas, mon vieux. Il ne voudra pas te croire. Il va douter de toi. Tout le monde va douter de toi. Le signe, là, c'est à la fin. Tu ne peux pas comme m'en donner un à chaque étape qui vient comme me dire que ça va bien aller. Le signe, parce que Dieu va donner des signes pour Israël, il va donner des signes pour Pharaon, mais le signe qu'il donne à Moïse, c'est à la fin. Comme donne-moi-en un maintenant. Non, non, le signe que tu vas voir que je suis avec toi, c'est à la fin quand ça va avoir marché. Fait que, tu peux-tu oublier Moïse, s'il te plaît? Peux-tu oublier Yannick? Tu peux-tu oublier Marcel? Peux-tu oublier Claude? Prends trop de place dans le miroir. Tu poses la bonne question, je suis qui moi? Pas grand-chose. Tu vois, je réponds pas grand-chose. Mais c'est parfait comme ça. Fait qu'oublie-toi, moi je vais être avec toi. C'est ça la réponse qu'il donne. Bon, fait que peut-être que le problème pour toi, c'est que tu dis, mais je suis quelqu'un moi. Puis je pense que tu as besoin de m'avoir sur ton team, Dieu. Ou encore tu dis, j'ai ma passion, j'ai ma voix. Je suis en train de suivre ma voie. Il va falloir que tu passes par cet endroit, ce moment où Dieu va comme, tu sais, bon, t'as-tu un Égyptien, ça ne marche pas ta voie. Tu veux-tu aller à l'écart, je vais me révéler à toi, puis après ça, je vais t'appeler, je vais te diriger. Là, tu vas avoir plein de doutes. Parce que là, tu vas trouver que tu n'es plus bon à rien. Mais c'est bon, on est sur la bonne voie, là. Parce que c'est moi qui vais être avec toi. C'est moi qui vais être avec toi. Et si vous sentez que vous êtes à la hauteur de l'appel que Dieu a placé sur votre vie, il va vous montrer. Si c'est lui qui vous a appelé, il va vous montrer que vous n'êtes pas à la hauteur. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises à l'église. Le pasteur qui a commencé à me former pour aller dans le ministère, il m'a dit, Yannick, les 7 premières années de ton ministère, l'église va te souffrir, mon vieux. Parce que tu vas apprendre, ça va être un laboratoire. Il s'est trompé. Les 20 premières années, l'église va me souffrir. Parce que je ne suis pas à la hauteur, c'est correct. Je vais être avec toi, c'est tout. Je suis qui, moi? T'es personne. Qui est-ce que je vais annoncer? C'est sa deuxième excuse. Et Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis, je suis celui qui est. » C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Ma question pour toi, c'est qui est-ce que toi tu vas annoncer? Parce que nous, on vit après la venue de Jésus-Christ. Les choses ont changé un peu. On a connu Jésus-Christ. Jésus dit dans l'évangile de Jean 8, 56 à 58, « Abraham, votre père, a tressailli de joie. » Il est en train de débattre avec des pharisiens. Puis il dit, « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. » Abraham a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il y a juste, tu sais, plusieurs siècles entre les deux. « Il l'a vu et il s'est réjoui. » Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. » Ça va pas? Et Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » C'est peut-être une théophanie avec une apparition du Christ, en fin de compte, dans le buisson. C'est peut-être vraiment le Christ qui était là. « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Et à l'intérieur de l'évangile de Jean, Jésus va utiliser à plusieurs reprises ce même « je suis le pain de vie, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la vérité. Je suis. » Si tu connais Jésus-Christ, personnellement, si en découvrant la personne de Christ, tu as découvert que tu étais indigne de son appel parce que tu as reconnu que tu étais pécheur, t'as oublié de regarder à toi, t'as regardé à la croix de Jésus, t'as compris que c'est lui qui devait mourir sur la croix pour que tu puisses être pardonné de tes péchés. T'as cru dans sa résurrection. L'expérience que t'as vécue là est plus puissante, plus belle et plus grande que celle que Moïse a vécue devant le buisson ardent. Parce que plus tard, Dieu va pouvoir dire à Moïse, « Allez-y vous autres, mais je ne vous accompagnerai pas. » Mais à celui qui a cru en Jésus-Christ, le Saint-Esprit a été donné afin que plus jamais Dieu nous dise, « Vas-y, mais je ne t'accompagnerai pas. » Et ce que Moïse n'avait pas, moi je l'ai parce que j'ai cru en Jésus-Christ, j'ai reçu l'Esprit de Christ en moi qui m'accompagne tout le temps. J'ai vécu beaucoup plus que le buisson ardent. Beaucoup plus. Je connais le nom de ce « je suis ». C'est Jésus-Christ. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ était le Dieu de Moïse. Penserez à ça cette semaine. Jésus-Christ était le Dieu d'Abraham. Abraham s'est réjoui de voir sa naissance. Dans Jean 8, 24, Jésus dit, « C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Dieu de Moïse? Moïse dit ensuite, « Moi, je ne suis pas un orateur. pas très habile, ils me croiront pas. J'aime cette citation. Il y a quelqu'un qui a dit, Dieu n'a pas besoin d'orateur, il a besoin de reporter. C'est tout. Tu as besoin de journalistes qui rapportent les faits qu'ils ont vécus, qui rapportent les faits qu'il y a dans les Saintes Écritures. L'apôtre Paul se faisait un point d'honneur de dire, je ne suis pas un grand orateur. Et Dieu n'a pas besoin d'orateurs. Dieu a besoin de reporters qui vont partager tout simplement ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont connu, ce qu'ils ont vu dans les Écritures, qui vont simplement le partager. Après ça, c'est quoi la réponse? C'est le problème de Dieu, ce n'est pas mon problème. C'est entre la personne et Dieu. Moi, tout ce que je fais, c'est que je rapporte. Tu peux tirer sur le messager si tu veux, c'est correct. Mais je fais juste rapporter. Tu peux aller vérifier dans les Écritures si ce que je te dis est vrai. Tu peux éprouver les Écritures, tu peux lire les Écritures. Je vais les ouvrir avec toi. Je fais juste te rapporter ça. Oui, mais c'est n'importe quoi ce que tu me racontes. Je te dis ce que j'ai vécu, mon ami. Puis tu me dis que ma vie est différente des autres vies autour. Tu me regardes travailler puis tu dis, qu'est-ce que t'as? Tu regardes ma famille et tu dis, c'est quoi cette affaire-là? Bien, cette affaire-là, je veux juste te l'expliquer. Je fais juste te rapporter ce qui s'est passé. C'est tout. T'en jugeras après. Puis à la fin, Moïse a le culot de terminer en disant, regarde, Seigneur, t'enverras qui tu veux. On pourrait le comprendre en voulant dire, ça pourrait être moi, mais là, Dieu se fâche. Parce que Moïse est en train de dire, je comprends, mais prends donc quelqu'un d'autre. Et là, Dieu se fâche, puis Dieu prend soin de lui, puis il dit, Aaron s'en vient, puis il va t'accompagner. Je sais que tu es faible. Je sais que tu manques de courage. Je sais que ça t'effraie de retourner en Égypte. Je sais que tu doutes que je peux me servir de toi. Je vais placer un compagnon à côté de toi. Bien, ce matin-là, vous en avez à peu près 250, 300 autour de vous qui ont la conviction qu'ils connaissent Jésus-Christ. Qu'ils ont la conviction qu'ils ont connu le vrai « Je suis ». Ils ont la conviction qu'ils sont appelés, mais ils ont toute la chienne. Ils ont toute peur. La majorité d'entre nous, pour être honnête. Mais on est ensemble. Parce que Dieu a placé plein de Aaron à côté de nous. Pour qu'on avance ensemble. Dieu nous a placés ici à Longueuil. C'est pas juste pour qu'on chante « J'aime Jésus ». C'est pour qu'on rapporte pourquoi on aime Jésus. Puis on est ensemble dans cette mission-là. Puis Dieu nous a placés ici pour faire des disciples de Jésus-Christ, pour rapporter ce qu'il a fait dans nos vies, qui on a connu, ouvrir la bouche, aller vers la communauté, à travers des petits groupes en mission, dans votre milieu de vie, inviter les gens à venir ouvrir les Écritures avec nous le dimanche matin. Puis on va faire ça ensemble. Mais oui, mais j'ai de la misère à parler. Regarde, il y en a des grandes boîtes autour de toi. Il y en a un tous les dimanches sur le stage. Il est fatigant, il y a une grande. Va le faire, il va parler de Jésus. On est ensemble dans cette mission-là. Dieu t'appelle à parler à tes amis. Dieu t'appelle dans un travail bien précis où ta lumière va pouvoir briller pour la gloire de Dieu, puis il va y avoir des opportunités qui vont en découler. Persévère, ça va venir. Dieu t'appelle à t'impliquer pour faire de la formation de disciples. Dieu t'appelle à t'engager vraiment dans une mission, dans un petit groupe de quartier. Dieu t'appelle à inviter des voisins à venir manger à la maison, puis à découvrir ta foi avec des amis chrétiens, puis juste un barbecue l'été. Dieu t'appelle à te faire baptiser, puis à inviter toute ta famille et tes amis à venir comme témoins de ta foi. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce passage-là? Moïse est imparfait. Moïse accepte de prendre la route, puis il décide de partir, puis c'est correct, Seigneur, je vais y aller. Puis pendant qu'il est en route, une nuit, vous irez relire le passage, on ne peut pas lire tout le texte, mais c'est vraiment weird ce qui se passe là. Dieu l'attaque pendant la nuit pour le tuer. Il y a comme de la confusion. Tu sais, tu viens juste de l'appeler, tu as argumenté avec lui, puis là, tu veux le tuer. Mais la vérité, c'est que Moïse vivait pas parfaitement, je vais le dire comme ça, sa vie chrétienne. Parce que Dieu a fait une alliance avec Abraham, puis le signe de cette alliance-là, c'est que chacun des mâles qui allait naître dans la famille allait être circoncis. Et ça allait être un signe, une marque de l'alliance entre Dieu et ce peuple-là. Or, un de ses fils ne l'est pas. Puis il a fallu, dans la nuit, excusez-moi, que sa femme fasse la job qu'il n'a pas osé faire pour sauver Moïse. Et Dieu rappelle à Moïse, « Moïse, tu vas marcher avec moi. Tu vas marcher selon mes directives. Puis on va aller faire des choses extraordinaires ensemble. Mais si ça réussit, ça va être uniquement par la grâce de ma présence avec toi. Fait que fais les choses comme il faut. Marche avec moi. » Si Dieu s'est fait connaître à toi, il t'a appelé. Si tu décides de prendre ta vie chrétienne pour t'en servir pour faire autre chose que l'appel que Dieu a placé sur nos vies, ça ne fait aucun sens. Mais si tu décides de prendre ta vie et dire, « Seigneur, sers-toi de moi pour faire connaître les vertus de celui qui m'a fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Sers-toi de moi, Seigneur. Je ne sais pas comment, j'ai la chienne. J'aimerais mieux que tu prennes quelqu'un d'autre, mais je sais que tu m'as choisi. Tu t'es révélé à moi. Je connais Jésus-Christ. Je ne peux pas m'en sortir. Alors montre-moi, où est-ce que tu m'appelles? Où est-ce que je vais aller ouvrir la bouche? C'est quoi mon milieu? Comment je vais le faire? Avec qui je vais le faire? C'est qui les Aaron que tu vas placer à côté de moi? » Puis je vais simplement y aller par la foi. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, j'aimerais t'adorer ce matin. Père éternel, je veux t'adorer. Esprit Saint, je veux t'adorer parce que on est vraiment privilégié comme chrétien de pouvoir lire ce livre de l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament. Cette expérience surnaturelle extraordinaire, avec ces signes incroyables que tu as donnés à Moïse. Seigneur Jésus, tu nous dis que tu nous as donné un signe plus grand encore. Le signe que tu nous as donné, c'est celui de Jonas, qui, après avoir été 3 jours dans la gueule du poisson, en est sorti vivant. Et toi, tu as été 3 jours dans les entrailles de la terre. Tu as été crucifié. Les témoins étaient là. Tout le monde l'a vu. Les Romains se sont assurés de ta mort. Et pourtant, 3 jours plus tard, tu es sorti du tombeau. Et depuis 2000 ans, depuis le témoignage des témoins oculaires de l'époque, les chrétiens vivent et meurent en rendant témoignage de ta mort et de ta résurrection, et de leur mort et de leur résurrection en toi, Seigneur Jésus. Parce que le grand Je suis s'est fait connaître à moi et est venu faire sa demeure en moi par son Esprit Saint. Seigneur, j'aimerais te prier pour les personnes ici ce matin qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas eu leur buisson ardent. Ils suivent une quête, une passion, une cause personnelle, mais ils ne te connaissent pas personnellement. Viens te faire connaître à eux, Seigneur. Viens éclairer les yeux de leur cœur pour qu'ils saisissent, Seigneur, qu'ils ont besoin de toi, que la véritable cause est celle de leur salut pour qu'ensuite ils puissent annoncer ce bel évangile à d'autres. Et Seigneur, pour chacun d'entre nous qui te connaissons intimement, personnellement, Seigneur, donne-nous le courage et la force d'obéir à ton appel et de chercher dans la prière là où tu veux, Seigneur, que nous entrions dans cette mission pour parler de toi. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.